Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture. Cette émission est préparée par Barthélémy Gaillard, Mélanie Chalandon, Bertie Bourdon et Julie Ducot. Elle est réalisée par Vivian Lecuivre. À la technique ce matin, c'est Anthony Thomasson. C'est le dernier volet de notre série consacrée au rapport aux partis d'extrême droite en Europe à l'histoire. Après l'Alternative für Deutschland en Allemagne et son rapport ambigu au nazisme, après l'héritage néofasciste de Fratelli d'Italia ou encore l'héritage franquiste de Vox en Espagne, il est question aujourd'hui du parti Aube Dorée en Grèce.
À partir du moment où j'ai rejoint Aube Dorée jusqu'au moment où je l'ai quitté, j'étais nazi. Nazi et rien d'autre. Je n'étais ni d'extrême droite, ni conservateur, ni nostalgique de la junte. J'étais NSDAP, le parti d'Hitler.
J'ai le Mein Kampf d'Adolf Hitler. Je l'ai en version traduite. J'ai acheté cet exemplaire dans une galerie à Londres. Celui-ci, en revanche, est un original de 1938. Mais avoir Mein Kampf chez moi ne veut rien dire.
Moi, je vous dis qu'Aube Dorée est un parti nationaliste. Nous ne sommes ni fascistes, ni nazis. Tout ce qu'on veut, c'est la liberté pour notre patrie.
Le 7 octobre dernier, 48 membres du parti Aube Dorée se présentent à leur procès à Athènes. Procès en appel, ils ont déjà été condamnés en 2020 à des peines de prison pour plusieurs meurtres, dont celui du rappeur Pavlos Fissas, assassiné 7 ans plus tôt. Aux côtés des accusés siège leur avocat, Konstantinos Plevris, moins connu pour ses plaidoiries que pour ses écrits antisémites. La séance à peine ouverte, il se lève avec le bras tendu du salut nazi. Au-delà d'Aube Dorée, cette scène dit aussi beaucoup de la présence structurelle de la violence fasciste au sein même de l'État grec, pour le geste accompli d'une part qui n'est pas pénalement répréhensible en Grèce, et pour le profil de son auteur, Konstantinos Plevris est en effet le père de l'actuel ministre de la Santé. Si Aube Dorée a aujourd'hui disparu au moins électoralement, comment expliquer que l'extrême droite demeure aussi visible, et ce au cœur même du pouvoir? Pourquoi cette liberté de ton de l'extrême droite grecque qui compte parmi les plus ouvertement néo-nazis et violentes d'Europe? Quelle fracture datant de l'époque du nazisme, puis de la guerre civile, puis de la dictature des colonels sont encore sensibles en Grèce? Pour en parler avec nous, deux invités. Bonjour Dimitris Koussouris.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence en histoire néo-hellénique à l'université de Vienne et nous sommes aussi avec Angélique Kourounis. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendante correspondante pour Radio France en Grèce. Vous avez réalisé deux documentaires sur Aube Dorée, une affaire personnelle et Aube Dorée, l'affaire de tous, justement sur ce méga procès historique de 2015 à 2020 du parti Aube Dorée. On en a entendu un extrait au début de cette émission. Alors le procès qui s'est rouvert il y a plusieurs semaines maintenant à Athènes, procès en appel, puisqu'une cinquantaine d'élus et membres d'Aube Dorée avaient été condamnés en première instance à des peines de prison plus ou moins longue, c'était en 2020. Toute cette procédure judiciaire a été déclenchée par un assassinat, celui du rappeur Pavlos Fissas en 2013. Mais ce n'est pas sur ce seul crime que repose tout le procès. Sur la base de quels autres crimes et quelles exactions le tribunal en première instance avait-il qualifié Aube Dorée d'organisation criminelle, Angélique Kourounis?
En fait, ce procès représentait les cibles d'Aube Dorée, donc les cibles du nazisme. Il y avait trois affaires. La première affaire, c'était l'attaque des ouvriers égyptiens à Leutique. Donc c'était les migrants qui étaient visés. La deuxième affaire, c'était Pavlos Fissas, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire c'était le mouvement antifasciste. Et la troisième affaire, c'était cette organisation criminelle qui était une sorte de parapluie. C'est la que ça avait lieu et le mobile a été utilisé, l'idéologie a été utilisée comme mobile et ça ne s'était jamais vu parce qu'il faut savoir qu'en Grèce on ne peut pas condamner une idéologie quelle qu'elle soit, y compris l'idéologie nazie ou l'idéologie raciste. Donc À partir du moment où, à cause de leur idéologie, ils sont passés aux actes et ils ont tué, à ce moment-là, leur idéologie a été utilisée comme mobile et c'est ça la grande première. Et c'est vraiment un procès unique parce que se sont retrouvés sur le banc des accusés des députés légalement élus pendant 7 ans, troisième force politique du pays, pour des élections municipales, régionales, européennes et législatives. Ça ne s'était jamais vu
jusqu'à présent.
Ceux qui ont commandité le meurtre et ceux qui ont pour procéder aux assassinats.
Donc il y a en effet les commanditaires et ceux qui ont procédé à ces assassinats, puisque l'un des enjeux de ce grand procès en première instance était de montrer qu'Aube Dorée n'est pas un parti politique, mais une organisation criminelle à caractère militaire. Dimitri Koussouris, qu'est-ce que le procès a permis d'apprendre sur le profil des membres d'Aube Dorée avant d'être des néo-nazis, des fascistes ou tous les qualificatifs que nous y mettons et que certains d'entre eux revendiquent d'autres noms? Est-ce que ce sont d'abord, en tout cas pour ceux, les exécutants, des criminels, des mafieux? Quand le parti s'installe dans les années 80-90 dans un quartier d'Athènes, Agios Panteleimonias, il recrute des petites frappes.
Oui, je voulais ajouter aussi que l'assassinat de Pavlos Fissas, le musicien dans le quartier populaire du Pirée, en 2013, a fait le procureur sortir de l'archive une soixantaine d'autres affaires, et dont le plus important, Angélique là, a mentionné quelques-uns. Il y avait notamment l'assassinat d'un immigrant pakistanais au début de l'année dans le quartier populaire d'Athènes, ainsi qu'une série d'attaques à des immigrés ainsi qu'à des syndicalistes du Parti communiste et d'autres antifascistes. Donc, ce qu'on a appris du procès, pardon, qui a duré presque 5 ans, et c'était qu'il s'agissait d'une organisation qui organisait ces attaques, dont les attaques aux immigrés, aux syndicalistes, ainsi qu'à des démonstrateurs en plein centre d'Athènes, étaient faisait partie organique de son fonctionnement, de son idéologie, et qui s'était systématiquement développée tant dans les années où l'Aube Dorée avait une présence parlementaire, mais même pendant 15 ans, 20 ans au moins auparavant.
Auparavant, d'ailleurs, vous êtes Dimitri Koussouris, et il se trouve que vous, ancien leader d'un mouvement étudiant, vous avez été agressé vous-même en 1998 par un membre d'Aube Dorée. Un homme agressé, d'ailleurs, est un euphémisme. Il s'agissait cet homme, il était surnommé Periandro, c'était le fils d'un ancien Premier ministre du régime des colonels. Avant de vous demander quels sont les liens aujourd'hui à sa création et aujourd'hui encore entre Aube Dorée et les années de la dictature, peut-être encore une dernière question sur cette question de la mafia, parce qu'on a vu notamment lors du premier procès en première instance, par exemple, des complicités établies dès le début dans la police avec un commissaire de police dans ce quartier, Agios Panteleimonias, qui a été lui aussi condamné. Il y a une forme de mafia au départ, un parti qui se repose sur peut-être, je ne sais pas, le milieu des boîtes de nuit, des armateurs. Il y a tout ça au départ.
Tout à fait. Bon, et Periandros, qui a été par ailleurs condamné pour assassinat de meurtre, et fils d'un premier ministre de la dictature, était un d'une série, et même le leader de l'Aube Dorée avait des liens directs avec la dictature, et tout ça, c'était un produit d'une dictatorialisation du régime parlementaire grec qui était inachevé après la chute de la dictature. Donc, les forces de l'ordre, notamment, ainsi que les militaires, ont eu une sorte d'immunité et ont pu poursuivre leurs activités au sein même de l'appareil d'État. Puis, vous avez aussi parlé de la question des rapports avec la police. Et c'est proverbial l'immunité que les activités de l'Aube Dorée, les activités violentes de l'Aube Dorée avaient tout au long de 2 décennies avant et même les assassinats de 2013. De toute manière, on parle d'une le financement, par ailleurs, de l'organisation est toujours quelque chose qui reste obscur, d'où ils trouvaient l'argent pour organiser leur campagne avant même qu'ils reçoivent de l'argent de la part de l'État grec en tant que parti parlementaire. Cette question, c'est une question qui est toujours, d'un côté, c'est clair qu'il s'agit d'une organisation qui avait des liens mafieux avec les forces de l'ordre. De l'autre côté, il reste encore toujours beaucoup à savoir, à prendre en ce qui concerne le lien concret et direct.
Alors, Angélique Cournis, vous souhaitiez intervenir ?
Oui, ce que je voulais dire, c'est que lors de ce procès, à côté des ouvriers halieutiques, à côté des antifascistes représentés par Pablo Suissa, il y avait effectivement, comme mon interlocuteur l'a dit, il y avait aussi les syndicalistes. Donc nous avions les trois cibles du nazisme, la gauche, les antifascistes et les migrants. Et puis, par-dessus, il y avait l'organisation criminelle. Mais en fait, ce qui s'est passé avec pour que Aube Dorée en arrive à avoir presque 7% et être crédité juste avant le meurtre de Pablo Suissa, c'était crédité de 12%, c'était que à la fin de la dictature, il y a eu juste une défascisation de l'armée qui depuis n'a plus jamais eu d'intervention à caractère fasciste dans la vie politique ou dans la vie sociale grecque. Mais en revanche, la police, le système judiciaire et même l'Église n'ont pas été défascisés. C'est pour ça qu'il y a eu pendant toutes ces années une complaisance absolument inadmissible entre l'extrême droite et particulièrement Aube Dorée avec il n'y a eu aucune punition, quoi qu'ils aient pu faire. Et aux dernières élections, dans les unités de vote où votaient spécialement uniquement les forces anti-émeutes, 50% avaient voté pour Aube Dorée. Donc il n'y a pas eu et il n'y a toujours pas de démocratisation de la police, du système judiciaire et de l'Église. Et ça, c'est un élément qui est vraiment très grave en Grèce.
Alors jusqu'où faut-il remonter pour comprendre où se trouvent les racines d'Aube Dorée ? Donc on l'a dit, il y a des liens entre Aube Dorée et les années de la dictature. Le leader du parti d'ailleurs, Mikael Liakos, a fait ses armes dans les sections de jeunes de l'Union politique nationale, donc une formation créée par Papadopoulos, le chef de l'État grec sous le régime des colonels. Mais quand on parle de nazisme, on parle de la Seconde Guerre mondiale, on parle de régime d'Hitler, on parle de l'Allemagne qui a occupé la Grèce à partir de 1941. Donc jusqu'où faut-il remonter, Dimitri Koussouris, pour comprendre où va puiser cette idéologie du parti Aube Dorée d'abord en particulier, avant d'élargir à toute l'extrême droite et à la droite grecque ?
Eh bien justement, la particularité de la Grèce pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'il y avait une guerre civile qui est continuée au-delà de la libération jusqu'en 1949. Et c'est qui était l'épisode le plus sanglant dans l'histoire récente du pays. Pendant cette guerre civile, les anciens collaborateurs, miliciens, donc de la collaboration armée, mais même des hommes politiques, et ainsi de suite, ont pu se réintégrer dans l'appareil d'État. Et ce qui était le cas dans d'autres pays européens aussi, la différence de la Grèce était que, et justement, c'était la collaboration armée qui, dès le début, a été intégrée pour offrir ses services dans la lutte anticommuniste du régime à l'époque, ce qui a créé un état d'exception qui a duré jusqu'à la fin de la dictature, pratiquement, avec tous ces mécanismes intégrés au sein de l'appareil d'État, un état d'exception qui mettait hors la loi et le Parti communiste et toutes les organisations pro-communistes du pays. Donc, pour 25 ans, en état de terrorisme politique institutionnalisé, en fait, qui a permis à ces mécanismes, non pas seulement de survivre, mais aussi de s'adapter aux nouvelles conjonctures de la guerre froide et ainsi de suite.
Alors, il me semble qu'il faut s'arrêter un petit peu quand même sur cet épisode sanglant de la guerre civile qu'on connaît quand même assez peu en Europe de l'Ouest, me semble-t-il. Donc, c'est une guerre civile qui a commencé avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1944, qui a duré jusqu'en 1949 et pendant laquelle des bataillons de sécurité ont affronté les résistants communistes. Il faut aussi rappeler en quelques mots le contexte géopolitique, comme on dit. C'est à l'époque Churchill qui est inquiet de voir la Grèce basculer dans le bloc soviétique, qui dépêche 60 000 soldats britanniques pour libérer la Grèce, dit-il, alors même que les militants communistes avaient déjà fait le gros du travail. Et les États-Unis qui reprennent le flambeau quand se démantèle l'Empire britannique à partir de 1947, qui envoient du napalm sur la Grèce. C'est aussi quelque chose qu'on a oublié, des tonnes de napalm dans le nord de la Grèce ou dans certains endroits. Il y a des terrains sur lesquels plus rien ne pousse aujourd'hui encore 80 ans plus tard. Angélique Kourounis, comment cette guerre civile, quand les militants d'Aube Dorée que vous avez rencontrés à plusieurs reprises pour vos documentaires, comment parlent-ils de cet épisode-là ?
Le gros de la guerre civile, la partie la plus sanglante, comme vous avez dit, c'était vraiment, et comme Dimitri l'a dit, c'était vraiment une guerre civile méconnue. À l'opposé de la guerre civile espagnole, où d'ailleurs Churchill avait fait exactement la même chose qu'il a fait par la suite en Grèce. C'était une guerre civile qui a essentiellement commencé en 46 et qui s'est terminée en 49, où, comme Dimitri l'a dit, ceux qui ont collaboré sont retrouvés au pouvoir et du bon côté du bâton. Et ce qui explique que maintenant, on ne peut pas condamner une idéologie, c'est parce que la constitution de 1975, qui a eu lieu après la chute des colonels, toute idéologie a été interdite parce que la gauche, qui a toujours été du mauvais côté des bâtons, s'est dit « bon, maintenant c'est terminé, on a assez donné, on veut être sûr que notre idéologie ne sera pas condamnée ». Et la guerre civile, si vous écoutez les slogans d'Aube Dorée, vous retrouvez exactement les mêmes slogans que les fascistes et l'extrême droite utilisaient durant la guerre civile. Je vais en dire juste un. Chien rouge, chien communiste, cette terre ne vous appartient pas. C'est quelque chose qui revient dans toutes leurs manifestations et c'est quelque chose qui est dû au fait qu'essentiellement, après la guerre civile et surtout après 1974, au retour de la, enfin je dirais même pas au retour, à l'établissement de la démocratie, parce que jamais jusqu'en 1974 la Grèce a vraiment connu de démocratie, il y a eu des historiens et des historiennes qui se sont assis autour d'une table pour essayer de tirer au clair ce qui s'est passé, et ça c'est quelque chose qui manque. En Espagne ça a été fait, en Grèce ça n'a pas été fait. Et la guerre civile est quelque chose, comme on n'en a pas discuté, comme c'est pas enseigné dans l'histoire, c'est quelque chose qui est toujours dans l'inconscient collectif et qui divise toujours la Grèce. Ça a divisé des familles et c'est quelque chose qui revient continuellement dans le débat politique. Surtout avec le gouvernement actuel qui a une rhétorique qui renvoie à la division de la guerre civile avec les mêmes slogans.
Donc beaucoup de pans entiers de l'histoire de la Grèce, très peu étudiés à l'école notamment. Vous parlez de cette période de la guerre civile qui n'apparaît pas dans les livres scolaires pendant très longtemps. La question de la Shoah aussi n'est apparue qu'en 2010, me semble-t-il, dans les manuels scolaires, ou à peu près. Pour revenir aussi sur cet épisode-là, puisqu'encore une fois, il faut bien penser les mots et les peser quand on parle d'Aube Dorée comme d'une organisation néo-nazie, Dimitri Koussouris, quel lien avait donc ceux qui aujourd'hui font Aube Dorée, mais qui sont eux-mêmes des descendants ou qui ont eu des liens avec les anciens bataillons de sécurité pendant la guerre civile, donc les anciennes milices collaborationnistes, est-ce que elles-mêmes, ces milices, avaient collaboré avec les nazis quand les Allemands occupent la Grèce en 1941?
Oui, tout à fait. Les bataillons de sécurité étaient justement de bataillons créés par le gouvernement de collaboration en Grèce afin de battre les forces de la résistance et économiser du sang allemand. Et ça, c'était la raison officielle donnée à l'époque de la part des occupants, au moins, à partir de 1943, donc sous l'occupation. Ce n'était pas les bataillons de sécurité en tant que tels qui ont combattu pendant la guerre civile. Eux, ils étaient renommés à plusieurs reprises en prenant le nom de garde nationale et ainsi de suite, dont un processus de création d'un appareil d'État anticommuniste qui a perduré pendant presque trois décennies et après. Ce qui fait la rupture et la division si profonde au sein de la société grecque, c'est justement ces régimes de 30 ans, ces régimes d'oppression politique qui a duré 30 ans. Et plein de prisonniers politiques, d'assassinats politiques. Le public français, c'est certainement familier, par exemple, avec le film Z de Costa Gavras, qui traite justement l'assassinat d'un député de gauche, et Lambrakis, dans les années 60. Voilà. Et je voudrais quand même dire que malgré les liens directs et apparents entre l'aube dorée et ses passés nazis du pays, et on ne peut pas toujours expliquer le présent par le passé. Peut-être ce passé explique le caractère ouvertement nazi de cette organisation et ses racines au sein de la société grecque, mais cela n'explique pas comment est-on arrivé dans les années 2010 à une organisation qui reçoit le 10 ou 12% de voix dans les élections et qui a une activité ouvertement violente. Pendant des années.
Donc une vingtaine de députés de 2012 à 2019, il n'y en a plus. Depuis les législatives de 2019, Aube Dorée n'a pas réussi à franchir la barre des 3% qui lui auraient permis d'être représenté au Parlement.
Nous ne sommes pas allemands. Ce n'est pas notre affaire. Nous sommes nationalistes. L'histoire d'un autre pays ne nous intéresse pas. Je suis sûre et certaine que ce n'est pas nous qui l'avons fait, l'Holocauste, ni ce qu'ils ont fait, s'ils l'ont fait, s'il a eu lieu.
S'ils l'ont fait, s'il a eu lieu, dit cette militante rencontrée dans votre documentaire Angélique Couronis. Le révisionnisme n'est jamais loin dans les partis d'extrême droite dont il est question depuis lundi dans Culture Monde et Aube Dorée en fait partie, bien sûr. Et vous nous disiez tout à l'heure, Angélique Couronis, que la constitution grecque, d'après cette constitution, un parti ne peut pas être interdit, une idéologie n'est pas interdite. Néanmoins, cet avocat d'accusé dont on parlait au tout début de l'émission, qui a fait le salut nazi à l'ouverture de l'audience des accusés donc d'Aube Dorée pour ce procès en appel, il ne l'a pas fait complètement impunément. La présidente de la Cour a suspendu la séance. Est-ce qu'il peut être poursuivi pour cela? Est-ce qu'il est poursuivi aussi pour ses écrits antisémites inspirés du mythe du XXe siècle de Rosenberg, de Mein Kampf ou de Gobineau sur l'inégalité des races?
Alors, le fait que la présidente ait suspendu la séance, puis l'a reprise après avec toujours cet avocat dans la salle d'audience, ne l'a pas empêché de le refaire à deux autres reprises. Il y a eu des avocats, notamment les avocats de la partie civile, dont les avocats des victimes, qui ont été tuées, les familles des victimes, procédé à une dénonciation au sein des organisations des avocats. Ce n'est pas le ou la procureur qui sont intervenus et on attend le résultat. Donc déjà, l'État n'intervient pas pour ce salut nazi. Et d'ailleurs, quand il l'a fait, il a dit « Je suis nazi, je suis raciste, je suis homophobe, je n'aime pas les immigrés, c'est mon idéologie, et alors est-ce un crime ?» Et il a refait le salut nazi. Et ça, plusieurs fois, dans la salle d'audience. Et vous dire un peu le climat qu'il y a dans ce procès en appel, qui est vraiment capital. Mais pour en revenir à ce qui a été dit précédemment sur, et Dimitri a parfaitement raison, le passé n'explique pas le présent. Il faut savoir, et la mère de Pablo Sfissas, qui a été assassiné, le dit dans le film, le deuxième que j'ai fait sur le procès, elle a dit « Moi, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi en 2015, on a continué à voter pour Aube Dorée alors qu'on savait que c'est des assassins. Ils avaient tué mon fils, ils avaient tué un autre migrant et on ne sait combien n'ont pas été connus parce qu'ils avaient peur, à cause des connivences avec la police, de leur famille avait peur de déposer plainte dans les commissariats. Et les Grecs ont quand même voté à 6%, je crois, encore en 2015, alors que le procès avait commencé et qu'on savait que c'était des assassins. Là, il faut se poser une question. Il faut savoir que je dis ça sous le contrôle de Dimitri parce que il est plus compétent que moi sur ce dossier, mais il y a environ 20% de l'électorat grec qui est d'extrême droite et certains même n'ont rien à dire sur le racisme et le nazisme et le fascisme. C'est tellement vrai qu'actuellement on a quand même 5 partis d'extrême droite et 3 ministres d'extrême droite au sein du gouvernement. Et ça c'est vraiment une vraie problématique qui se pose.
Voilà, il y a à la fois la question de savoir pourquoi les Grecs ont continué à voter pour Obdoré en 2015, alors même que le procès avait ouvert et qu'on entendait des témoignages édifiants, dont cette, la mère de ce rappeur, qui en effet a assisté à toutes les audiences, qui est devenue une figure de ce procès, mais aussi donc pourquoi les Grecs ont voté et pourquoi la droite grecque a continué à lui faire confiance, entre guillemets, à ce parti ou à cette extrême droite au sens beaucoup plus large, Dimitri Koussouris, parce que cette droite que l'on dit classique, traditionnelle, en l'occurrence en Grèce, le parti Nouvelle Démocratie, qui est le parti du Premier ministre actuel Kyriakos Mitsotakis, il a particulièrement composé avec cette droite extrême ces derniers temps. Comment ?
Oui, tout d'abord, oui, il faut rappeler que deux des trois des ministres actuels viennent de l'extrême droite, dont l'un est Voridis. Il était le successeur de Michaloliakos dans la jeunesse du parti pro-dictature dans les années 80. Donc, tout d'abord, il faut rappeler que la Nouvelle Démocratie, c'est le parti de droite républicaine qui a été créé après la chute de la dictature. Et le parti, dès le début, a su absorber et suivi une stratégie d'absorber les forces de l'extrême droite au sein de l'appareil d'État, notamment. Et quant à Mitsotakis, d'abord, son père a eu un passé de connivence avec ses forces. Depuis, il a joué un rôle de protagoniste en coup d'État parlementaire de 1965 qui a finalement abouti à la dictature de 1967. Puis il a su à plusieurs reprises absorber ou fournir une sorte d'immunité implicite à la violence de l'extrême droite, même pendant les jours de son gouvernement au début des années 90. Et en arrivant à 2010, c'était clair que d'abord l'effondrement d'un parti grec orthodoxe de l'extrême droite a ouvert le champ pour une nouvelle organisation. La Nouvelle Démocratie a essayé dès le début d'absorber ou de tenir sous contrôle les forces de l'Obdoré à l'époque où l'assassinat de Fissas a été et révéler la persécution légale a commencé. Et il y a eu toute une série de révélations pour les canaux de communication entre la Nouvelle Démocratie et le Premier ministre lui-même et le leader de l'Obdoré. Et puis, depuis le début de leur mandat, en 2019, il faut rappeler aussi que la justice grecque a su fournir une immunité d'une manière ou d'une autre à une série de violences policières qui ont clairement un caractère raciste.
Immunité donc qui va nous permettre de parler avec notamment Angélique Kouronis de la notion d'état profond qui en Grèce prend un sens particulier. Mais juste avant, peut-être encore une question, Dimitri Koussouris, cette dynamique d'absorption des forces de l'extrême droite par la droite traditionnelle en Grèce, est-ce que c'est une dynamique que l'on peut comparer d'après vous, ou est-ce que c'est audacieux et moins structurel à celle de dynamique qui a eu lieu en France, le lien de ces groupes ou partis d'extrême droite comme Occident ou le groupe Action Défense, le GUD, dont certains membres des années 60, Gérard Longuet, Alain Madelin, Patrick Devedjian, ont par la suite intégré des partis de droite républicaine. Est-ce que vous diriez que c'est une logique d'absorption qu'on peut comparer ?
Tout à fait. Bon, l'exemple de la France, est notamment du gouvernement Sarkozy, est un tel exemple. Si vous voulez, l'histoire de l'après-guerre européenne est pleine de tels paradigmes où la droite essaye d'absorber et de normaliser aussi, si vous voulez, les forces fascistes, néo-fascistes. Et en Grèce aussi, cela a une longue histoire. Depuis l'époque de la guerre civile, la droite a su absorber ou bien normaliser, même aux yeux des alliés, les forces de l'extrême droite qui ont été intégrées au sein de l'appareil d'État. Donc, ma réponse est oui. Et en cela, la Grèce n'est pas une exception. Peut-être, c'est un exemple assez frappant par rapport à d'autres pays européens.
Là où la Grèce est sans doute une exception, Angélique Coroni, c'est cette logique structurelle que vous décrivez tous les deux d'intégration de la violence fasciste au sein de l'État, État entendu au sens large. Il y a toujours des liens, nous disiez-vous, entre ces mouvements d'extrême droite et la police grecque. Comment est-ce qu'on peut raconter comment depuis, je ne sais pas, 30-40 ans, on continue à entendre chaque année des affaires de policiers qui tuent eux aussi, que ce soit des Roms comme en décembre dernier ou à d'autres reprises, ils sont eux-mêmes très souvent mis en cause dans des affaires. Est-ce qu'ils sont jugés par la suite? Qu'est-ce qui se passe pour eux?
Alors, il y a toujours ce qu'on appelle les fameuses évées, c'est-à-dire les enquêtes internes, qui n'aboutissent pratiquement jamais, je dirais 9 fois et demi sur 10, elles n'aboutissent pas. L'exemple le plus frappant, enfin l'exemple le plus récent, c'est que quand mon collègue Thomas Jacobi a été passé à tabac sévèrement devant les policiers lors d'une manifestation, il y a eu une ouverture, c'était des membres d'Obdoré, il avait déclaré ouvertement, la police les a laissés partir. Quand il a été emmené à l'hôpital, il y a eu l'ouverture d'une évée et 2 mois après, la conclusion a été que, je cite, la police a bien fait son travail.
Bon, parce que, alors maintenant, je ne sais pas quel était son travail. Angélique Coronis, vous avez été agressée avec votre collègue parce que vous étiez en train de faire quoi? C'était une agression spontanée, entre guillemets, ou elle avait été préparée par ceux qui vous ont agressée?
Moi, j'ai été agressée lors du tournage du premier film, Aube Dorée, une affaire personnelle, parce que je tournais une scène où, justement, particulièrement violente, où les militants d'Aube Dorée s'en étaient pris physiquement, frappaient quelqu'un qu'ils estimaient pas assez d'extrême droite. Et puis Thomas Jacobi, lui, a été très violemment agressé 2 fois de suite, à 1 an d'intervalle, parce que justement, il les filmait dans des manifestations. On a eu beaucoup de chance, parce que l'agression de Dimitri Koussouris était délibérément une volonté de tuer. Nous, on n'a pas eu de bâton, on n'a pas eu de couteau, on n'a pas eu de batte de baseball. On s'en est sorti avec des côtes cassées, des nez cassés, des contusions. Mais la police, dans les 2 cas, même dans les 3 cas, je dirais, n'a pas fait son travail, puisque l'agresseur de Dimitri n'a pas été appréhendé par la police. Il s'est rendu lui-même. Et quant à nous, nos agresseurs, ils n'ont jamais été arrêtés. Quand on a été emmené dans le poste pour essayer de les identifier, la police nous a montré que des photos de migrants, alors qu'on leur avait clairement dit que ce n'était pas des migrants. C'était des gens bien de chez nous, qui parlaient grec, qui étaient blancs, qui n'étaient pas des gens basanés. Donc il y a une volonté de criminaliser évidemment les migrants, et il y a une justice à 2 vitesses. Quand c'est un policier qui est en cause, 9 fois et demi sur 10, il est relâché, faute de preuves, non-lieu. Et ça s'est encore très récemment vu. Il y a un militant LGBT, Zach, qui a été, on a une vidéo qui tourne sur Internet, massacré par 2 personnes plus 4 policiers. Eh bien, les policiers ont été relâchés, ils ont été intégrés, ils n'ont jamais été suspendus, ils sont toujours dans la rue. Et puis, le procès vient d'être reporté, après 3 ans d'attente, à décembre 2023. Donc, il y a une justice vraiment à 2 vitesses. Et les policiers agissent de cette façon parce qu'ils savent qu'ils sont dans une impunité totale. Il y a des cas de torture. On a des cas, j'ai interviewé des cas de torture il y a 1 an au sein de la RAVA, c'est-à-dire la sûreté d'Athènes, en plein centre d'Athènes. Donc, cet état profond est visible par cette impunité. C'est visible par la façon dont sont traités les policiers. Donc, on avait très peur au début du procès, le premier procès, que cet état d'impunité allait continuer. Mais les preuves de la partie civile étaient tellement fortes que ça n'a pas été possible. Et à un moment, au début du procès, on se disait, les avocats de la partie civile disaient vraiment, la présidente est contre nous, ça ne va pas le faire. Donc, et puis en fait, par la suite, les arguments étaient tellement forts. Elle a mené un préveniot, la présidente, elle a mené un interrogatoire tellement serré contre la police que le policier s'est évanoui. Et ça veut vraiment tout dire.
C'est vrai que la procureure avait demandé au départ l'acquittement de tous les responsables d'Aube Dorée. On parle de ses accointances et complaisances et complicités dans la police et la justice grecque avec Aube Dorée. Récemment a été nommée vice-présidente du Conseil d'État la juge Marianti Pagoutelli. Alors elle n'est pas d'Aube Dorée, mais elle avait regretté sur un blog qu'Hitler n'ait pas complètement exterminé les juifs il y a quelques années. Dimitri Koussouris, cette notion d'État profond, pourquoi prend-elle un sens particulier en Grèce?
Parce que tout d'abord, il a quand même une durée depuis longtemps et il a pu survivre des années longues et il a pu produire coup après coup des crimes politiques au sein du pays. Et l'impunité, par exemple, de la police n'est pas nouvelle. L'immunité envers l'extrême droite était connue même à l'époque, par exemple, où moi et mes collègues à l'époque ont été agressés. Et la police, demain, est partie et deux minutes plus tard, et le groupe de assaillants de l'extrême droite est apparu. Donc, il s'agit d'une caractéristique structurelle du système politique grec. Si vous voulez, je voudrais ajouter aussi que ce qu'on a vu depuis la guerre civile, l'après-guerre grecque, c'est que l'État grec a pu instituer une sorte d'antifascisme formel en tant qu'idéologie officielle de l'État, du régime. Et cela l'a aidé justement à suivre une politique de d'absorber et de intégrer les forces fascistes au sein de l'appareil d'État et leur fournir une immunité effective.
Alors, on arrive. Oui, pardon, on arrive à bientôt à la fin de cette discussion et je voulais vous proposer d'écouter celui dont la mort aura enclenché ce grand procès d'Aube Dorée en 2015, c'est le rappeur Pavlos Fissas.
Μοιάζει με επανάσταση που αρχίζει. Ο σκύλος λύσαξε και άρχισε να χρήζει. Το ποτήρι όντως έχει ήδη ξεχειρίσει απ' την τόσα διαφορία που μας έχει πλημμυρίσει. Συνεχώς ο μικρός Αλέξης μου θυμίζει πως η ελευθερία του λόγου ακριβά κοστίζει. Πάνε τα χρόνια που με λέγανε φατσούλα. Τώρα έχω και ταβέλα τρομοκράτης με κουκούλα. Πάλι το μυαλό μου παρανοεί πως αφήσαμε την παρακμή τόσο να ξαπλωθεί. Όλο μας το είναι ένα πράτα και μια σέρκοβα. Γαμώ τη μου για το έφυγε ο Τζουλιάνι ρε στην Γένοβα. Κατά απ' τα χέρω το βλέμμα του αετού. Με φυλάνε κάθε μέρα από το μάτι του κακού. Είμαι Ευρωπαίος συμμαχός με υπερδύναμη. Να πά να γαμηθείτε ρε, είσαστε τύρανοι. As she deceived me, I watched and went out of my mind. Έχω ένα βάρος στη συνείδησή μου. Δεν είναι τα παιδιά αυτά που μεγάλωσαν μαζί μου. Γιατί δεν πήγε καλά, γιατί μας πήγε στραβά. Μου ολοκληρεί τη γενιά του 79. Τι έχεις πάθει πες μου πραγματικά. Ειλικρινά που οδηγούν όλα αυτά τα σκάτα. Με ρωτάς αν όλο αυτό το πράγμα έχει ουσία. Ρώτα το μπάτσο που τον φάγανε μια νύχτα κρύας διαστία. Όλη η ζωή μας έχει αλλάξει σε ένα δράνιο.
Un morceau de Pavlos Fissas, nom de scène Kylapé, le rappeur assassiné en 2013 à l'origine de ce grand procès d'Aube Dorée qui officiellement depuis le début du procès n'existe plus mais dans les faits est encore active, même si elle n'a plus de représentation parlementaire. Dimitri Koussouris, comme je vous ai, sans faire exprès, coupé la parole juste avant ce disque, c'est cette question, qui prend la place aujourd'hui laissée vacante à l'extrême droite par Aube Dorée? Vous n'êtes peut-être plus là, Dimitri Koussouris. Angélique Kourounis?
Non, je suis là.
Oui, Angélique Kourounis, qui prend la place laissée vacante à l'extrême droite en l'absence pour l'instant d'Aube Dorée?
Alors, je voulais juste dire que comme la Constitution interdit la suppression des partis, le parti d'Aube Dorée existe en tant que tel. Ces dirigeants qui sont en prison en tant que criminels à la tête d'une organisation criminelle. Ceux qui prennent la place, c'est les nouveaux partis d'extrême droite qui ont été créés, notamment de leur prison, des condamnés. Donc l'ancien député porte-parole d'Aube Dorée a créé son parti, et l'ancien eurodéputé qui lui a été arrêté par la police belge et non par la police grecque qui l'a laissé s'enfuir, a également créé son parti. Nous avons trois autres partis d'extrême droite, et puis nous avons la fange la plus extrême, celle qui est vraiment d'extrême droite au sein du parti actuel, parce que le Premier ministre actuel a choisi de s'allier, ou en tout cas de donner des messages très clairs. Comme vous l'avez dit, le ministre de la Santé a été inclus dans le dernier remaniement ministériel. Il y avait d'autres personnes tout à fait valables au sein des conservateurs qui auraient pu prendre ce poste. Il a choisi Thanos Plevros, qui vient de l'extrême droite. Et donc, c'était un message très clair vis-à-vis de cet électorat. Donc, il n'y a pas de problème pour les électeurs d'extrême droite ou les électeurs néo-nazis. Il n'y a vraiment que l'embarras du choix, je dirais. Et je voudrais revenir sur une petite question
très
de
rapidement,
la responsabilité
s'il vous plaît.
Européenne. C'est qu'en 2012, en pleine crise, il était possible que la gauche arrive au pouvoir, et tous les dirigeants européens sont venus en Grèce pour demander de ne pas voter à gauche et de voter conservateur. À l'époque, il y avait déjà 21 députés nazis au Parlement grec. Ils n'ont jamais dit ne votez pas nazis. Jamais.
Ils ne l'ont jamais dit. Merci Angélique Kourounis. Cette question de la mémoire, de la transmission de la mémoire est évidemment essentielle pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit la mémoire de la dictature qui n'a pas été soldée, pas de travail de mémoire ni de réconciliation nationale. C'est la mémoire de la guerre civile aussi, dont les fractures sont encore très présentes au sein de la société grecque. Et puis la mémoire, bien sûr, du nazisme et de la Seconde Guerre mondiale.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
En 1920, il y avait 55 synagogues à Thessalonique. La plupart d'entre elles ont été démolies pour mettre en œuvre le nouveau plan d'urbanisme de la ville, établi après le grand incendie de 1917. Pendant l'occupation nazie, beaucoup des synagogues qui restaient ont été détruites par les occupants, bien évidemment après avoir été pillées. Aujourd'hui, seulement deux synagogues et une maison de retraite sont encore debout.
Le directeur du musée juif de Thessalonique, au micro de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, à Thessalonique, il reste aujourd'hui peu de traces de ce qu'a été la Jérusalem des Balkans pendant plusieurs siècles, la grande ville portuaire du golfe de Thermaïque sur la mer Égée dans le nord-est de la Grèce. A par exemple abrité le plus grand cimetière juif séfarade d'Europe. Mais peu après l'arrivée des Allemands, en 1941, ce lieu sera détruit avec l'accord de la municipalité. Et depuis, l'histoire de ces sépultures et avec elle la mémoire de la persécution des Juifs de Thessalonique pendant la guerre a du mal à émerger. Bonjour Loïc Marcoux.
Bonjour.
Merci beaucoup.
Merci de votre accueil.
C'est nous qui vous remercions d'être avec nous. Vous êtes chercheur associé à l'EHESS. Un peu d'histoire d'abord pour comprendre l'importance historique de la communauté juive de Thessalonique qui abritait au XVe siècle jusqu'à l'année du début de l'occupation allemande en 1941, le plus grand cimetière juif séfarade d'Europe. Pourquoi une si forte communauté juive précisément en cette ville ?
Alors, tout simplement parce que en 1492, après l'édit de l'Alhambra, donc les Juifs sont chassés d'Espagne, ils seront aussi chassés du Portugal, et ils se réfugient dans l'Empire ottoman parce que l'Empire ottoman est prêt à les accueillir. Et parmi les villes qui les accueillent, il y aura en particulier Smyrne, il y aura Constantinople, mais dans une moindre mesure que Thessalonique. Thessalonique est la ville qui va abriter la plus grande communauté juive séfarade de l'Empire ottoman. Et on trouve, puisque vous parlez du cimetière, de cette gigantesque nécropole qui sera en réalité une sorte de musée à ciel ouvert, hein, jusqu'en décembre 1942, eh bien, on trouve donc des traces de la présence juive séfarade à Thessalonique dès 1493, puisqu'une pierre tombale donc datait avant la destruction du cimetière de 1493. Donc c'est une communauté juive florissante, effectivement, qui a existé jusqu'à la Shoah.
L'occupation allemande de Thessalonique, elle commence en 1941, comme dans toute la Grèce, et c'est en décembre 1942 que les nazis détruisent le cimetière juif de la ville. Comment a été établie des années plus tard la collaboration de la mairie de Thessalonique de l'époque, précisément sur ce sujet, la destruction du cimetière ?
Alors, c'est un point qui est extrêmement complexe, en fait, qui vient d'être véritablement étudié par des historiens. Il y a eu un très bon article d'un chercheur grec qui s'appelle Léon Saltiel, qui a établi la part des responsabilités dans la destruction du cimetière. Alors, il faut savoir, en fait, que cette gigantesque nécropole, donc c'était une nécropole de 35 hectares, bloquait l'extension de la ville vers l'est, après, justement, le grand incendie d'août 1917 dont vous avez parlé. Et auparavant, après la destruction de la muraille orientale de la ville par les autorités ottomanes à la fin du XIXe siècle. Donc ce cimetière qui était situé à l'origine en périphérie orientale de la ville s'est retrouvé peu à peu au centre de la ville et il a suscité toutes les convoitises. En réalité, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce cimetière a été détruit par l'occupant allemand, mais à l'instigation de certaines parties de la société thessalonicienne de l'époque, en particulier des édiles, mais également d'un représentant de l'État grec qui s'appelait Vassilios Simonidis, qui était un collaborateur grec notoire. Les nazis, une transaction avait émergé entre le conseil le conseil juif qui représentait la communauté juive et les autorités, notamment les autorités allemandes. Les Allemands avaient, exactement les nazis, avaient décidé que seraient détruits les tombes datant de plus de 30 ans. Et que les tombes datant de moins de 30 ans seraient épargnées. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que, et donc la majeure partie du cimetière serait épargnée. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que lorsque l'occupant allemand a donné l'ordre de détruire donc une partie seulement du cimetière, eh bien, les autorités municipales ont agi avec célérité et ont procédé à la destruction de l'ensemble du cimetière.
Et on a vu arriver
chose qui n'avait pas été décidée par les nazis.
Avant, on a vu des centaines d'employés détruire pendant deux semaines ce vieux cimetière juif dont les pierres tombales, écrivez-vous dans vos articles, furent utilisées par la suite comme matériaux de construction. La reconnaissance du rôle de l'État grec est officiellement reconnue, mais elle n'est pas explicitement exprimée, notamment sur les plaques commémoratives sur les lieux. Quand et par qui a été fait ce travail de mémoire? Reconstituer l'histoire à la fois de ce cimetière, mais des Juifs de Thessalonique en général et de leur sort pendant l'occupation?
Alors, il y a deux choses, en fait. Il y a à la fois donc, le travail de l'histoire qui est effectué par les historiens, et il y a le travail de mémoire, ce qui est autre chose. Alors, pour l'histoire à proprement parler, à la fin des années 90, est créée à Thessalonique une société d'études, une association donc, d'études du judaïsme grec. Et à ce moment-là, un certain nombre d'historiens, et notamment d'historiennes, puisqu'au départ ce sont surtout des historiennes grecques locales, s'intéressent à mettre en valeur le passé juif de la ville. Et donc effectuent un travail d'histoire absolument remarquable. Ce travail d'histoire est effectué également par des historiens étrangers, par un historien allemand qui est établi en Grèce, qui s'appelle Hagen Fleischer, mais également par le grand historien britannique Mark Mazower, qui est en particulier l'auteur dans les années 2000 d'un livre absolument remarquable sur Thessalonique, La ville fantôme, Thessalonica City of Ghosts. Pour le travail de mémoire à proprement parler, les choses sont un petit peu plus complexes. Il y avait effectivement une sorte de mur de silence qui entourait Thessalonique, et ce pendant très longtemps, tout simplement parce que le récit national grec, le récit officiel grec, après, disons, de la fin de la guerre civile à la fin de la dictature des colonels, avait totalement occupé la mémoire juive de Thessalonique, mais également d'autres villes de Grèce. Tout simplement parce que les vainqueurs de la guerre civile étaient les anciens collaborateurs du pays. Ils avaient voulu étouffer la résistance communiste qui avait d'ailleurs, notamment le parti EAM, le Front de Libération Nationale d'Obédience Communiste, qui était la principale force de résistance du pays. Donc si vous voulez, jusqu'à la fin de la dictature des colonels, la mémoire de la Shoah ne pouvait absolument pas émerger en Grèce. Plusieurs facteurs ont contribué à l'émergence de cette mémoire.
Peut-être il y a eu tout d'abord quelques mots, le fait... Oui. Pardon,
oui, très
je vous en prie.
Je vous en prie. À la fin des années 90, Thessalonique Munich en 1997 et nommée capitale culturelle de l'Europe. C'est à ce moment-là qu'est décidée la construction d'un musée juif de Thessalonique qui verra le jour en 2001. En 1995, également, on célèbre en Grèce, on commémore plus exactement en Grèce, le 50e anniversaire du retour des camps. Et également en 1992, on célèbre le 500e anniversaire de l'expulsion des Juifs d'Espagne. Tout cela contribue, si vous voulez, à faire progressivement une mémoire. Et puis, il faut saluer le travail considérable effectué par la communauté juive de Thessalonique, qui fait publier à partir des années 90 un certain nombre de témoignages de rescapés juifs thessaloniciens de la Shoah. Et ce sont ces témoignages mis en valeur par des historiens. Je pense en particulier au témoignage de Yom Tov Yakoel, qui était l'avocat de la communauté juive de Thessalonique pendant la guerre. Je pense également à d'autres témoignages. L'ensemble de ces témoignages a contribué progressivement à faire émerger une mémoire. Donc voilà, très rapidement, pour répondre à votre question, je pourrais développer, bien évidemment.
Bien évidemment, et on mettra de toute façon en lien sur le site de Culture Monde votre article sur ce cimetière. Ce travail de mémoire n'empêche pas encore aujourd'hui la résurgence de l'antisémitisme. Et il y a quelques semaines encore, c'était le 29 décembre dernier, on a retrouvé à l'université Aristote de Thessalonique, donc vraiment à l'endroit où se trouvait avant ce cimetière juif détruit par les Allemands en 42, on a retrouvé des inscriptions nazies, une grande croix gammée, et on ne sait pas, c'est difficile de mesurer aujourd'hui la place d'Aube Dorée et des groupuscules extrémistes ou antisémitistes à Thessalonique. Merci beaucoup Loïc Marcoux d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'EHESS, et je remercie aussi pour la fin de cette émission nos deux intervenants du début de notre discussion, Dimitri Koussouris, maître de conférence en histoire néo-hellénique à l'Université de Vienne, et Angélique Couronis, journaliste indépendante, elle est correspondante pour Radio France en Grèce, et nous mettons en lien également sur le site de Culture Monde les documentaires qu'elle a réalisés sur Aube Dorée, une affaire personnelle, et Aube Dorée, l'affaire de tous. Tout de suite, c'est la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale, Adrien Toffolet.
Adrien Toffolet, vous commencez votre revue de presse en Écosse, où une affaire de viol entraîne un débat intense sur la transidentité dans le système judiciaire et carcéral.
Oui, tout part du délibéré d'un procès dans une affaire de viol qui a été dévoilée mardi. Ayla Bryson, une femme transgenre, a été reconnue coupable de deux viols sur des femmes. Le premier a eu lieu à Clydebank en 2016, le second à Glasgow en 2019. Elle les a connus par Internet et les a choisis pour leur vulnérabilité. À cette époque, Ayla Bryson n'était pas identifiée de cette façon. Les deux victimes avaient eu affaire à un homme. Bryson avait un autre nom, un Morinon, c'est-à-dire son prénom et son nom de naissance avant sa transition de genre. Elle n'avait pas de coiffure blonde non plus, comme aujourd'hui, mais le crâne rasé, des tatouages sur le visage, bref, une apparence et une identité différentes. Sa culpabilité n'a fait aucun doute. Le procès a toutefois donné lieu à des argumentaires assez inédits, soulevant des questions de droit intéressantes, comme l'a relevé The Spectator. Son avocat estimait, par exemple, que Bryson ne pouvait pas être considéré comme un prédateur mâle, comme l'affirmait l'accusation, puisqu'elle est femme et que sa transition est admise comme telle. Elle a été reconnue coupable et connaîtra sa peine le mois prochain. C'est la première fois qu'en Écosse, nous dit la BBC, qu'une femme transgenre est reconnue coupable de viol sur des femmes. Mais ce n'est pas pour sa condamnation qu'elle fait les gros titres de toute la presse britannique. Ce qui provoque un débat féroce et passionnant, c'est la question de son incarcération. Où ira-t-elle purger sa peine de prison? Doit-elle être incarcérée dans une prison pour hommes ou pour femmes? Il y a des hommes transgenres et des femmes transgenres incarcérés en Écosse, 15 au total selon le décompte de la BBC. Mais pour d'autres crimes, le fait qu'il s'agisse d'une criminelle sexuelle qui n'a changé de genre que récemment, peu de temps avant le procès, interroge la société écossaise. Depuis deux jours, le débat est même politique, nous dit le Télégraphe, avec les conservateurs qui militent pour qu'Ayla Bryson soit emprisonnée avec des hommes, en mettant en doute l'honnêteté de sa transition et en dénonçant la menace qu'elle représenterait pour des détenues femmes. Voilà, par exemple, ce qu'a défendu hier un député conservateur au Parlement écossais.
Violent criminals are exploiting the system and putting vulnerable women at risk.
Les criminels violents exploitent le système, dit-il, et font peser un risque sur la vie des femmes. Le représentant du gouvernement peut-il me dire pourquoi il considère qu'un violeur doit être emprisonné dans un établissement pour femmes? Autrement résumé, le cas Bryson pourrait créer un précédent. À ses yeux, tous les hommes condamnés pour viol pourront échapper à la prison pour hommes en changeant de genre et continuer ainsi à être des prédateurs avec leurs codétenues féminines. Ces craintes peuvent être motivées pour certains par une transphobie, mais l'affaire soulève tout de même des questions légitimes de droit, d'éthique, de sécurité. Des craintes, des réticences ont été formulées par des députés de la majorité également et par un rapporteur spécial de l'ONU, rapporte le Guardian. La position du gouvernement, en revanche, est claire. Il n'est pas compétent pour décider du sort des prisonniers transgenres. C'est une prérogative du Scottish Prison Service, l'agence gouvernementale qui gère les prisons. Le SPS, comme il le fait à chaque fois, va réunir des personnels pénitentiaires, des médecins et des psychologues pour statuer sur le cas. En attendant la décision, Ayla Bryson est incarcérée dans une prison pour femmes, mais isolée des codétenus.
Aux États-Unis, à présent, les autorités de Floride sont accusées de racisme suite à une décision d'interdiction d'enseignement d'études afro-américaines.
Oui, accusation portée contre le gouverneur de Floride, Ron DeSantis. C'est l'une des figures actuelles du Parti républicain, dont on a déjà eu l'occasion de parler à de nombreuses reprises, au moment des midterms en novembre notamment, dont il a été l'un des grands gagnants, mais aussi lorsqu'il s'est lancé dans des croisades contre le wokisme et les droits LGBT. Sa nouvelle cible aujourd'hui, ce sont les African American Studies, des cours que des élèves de lycée en Floride peuvent suivre en option, dans certains établissements uniquement, qui font partie d'un programme pilote national. Son administration vient tout simplement de les interdire parce qu'ils seraient contraires à la loi en Floride, explique le Washington Post. Il faut dire que la loi, il l'a lui-même façonnée à son goût récemment. Selon la réforme que DeSantis a signée, les cours mentionnant la notion de race doivent désormais être enseignés de manière objective et, je cite, pas utilisé pour endoctriner ou persuader les élèves d'un point de vue particulier. Pour DeSantis, précise CNN, le fait que les cours évoquent des thématiques comme la théorie littéraire féministe noire, l'intersectionnalité, le militantisme, ou encore les études queer afro-américaines, cela pose problème, et ce, même si ce ne sont que des chapitres dans des études bien plus larges sur l'histoire et la culture noire. Ron DeSantis estime qu'il y a un agenda politique derrière et qu'il est de son devoir de protéger les enfants d'un endoctrinement. De nombreuses voix dénoncent une mesure raciste, car DeSantis n'a visiblement aucun problème avec les autres cours du programme pilote. Il n'a rien à dire lorsqu'il s'agit des European Studies, par exemple, ou quand le sujet concerne la Chine ou le Japon, mais uniquement quand cela concerne l'histoire américaine des Noirs, peut-on lire dans une tribune signée par l'Association for the Study of African American Life and History, association de défense et de promotion de l'histoire et la culture afro-américaine, publiée sur le Herald Tribune. Une action en justice contre l'État de Floride est d'ailleurs en préparation, portée par Ben Crump, un avocat et militant des droits civiques très influent, surnommé le procureur général de l'Amérique noire, et que l'on retrouve notamment en première ligne sur les affaires de violences policières. Ce pourrait être un gros revers pour Ron DeSantis, nous dit le Washington Post, lui qui incarne depuis quelques années le mouvement de reprise en main par les plus conservateurs du pays, de tout le système éducatif.
Enfin, en Nouvelle-Zélande, Adrien, la presse évoque la crise qui menace l'industrie de la bière.
Oui, une crise sérieuse, comme l'explique le New Zealand Herald et le Otago Daily Times, en raison d'une pénurie de dioxyde de carbone qui touche le pays et qui met en difficulté le secteur du vin pétillant, les brasseries artisanales et les fabricants de soda. Une seule usine en Nouvelle-Zélande produit le CO2 alimentaire qui leur sert à donner ce pétillant aux boissons et qui sert également aux producteurs d'eau pétillante et au secteur médical. Cette précision a d'ailleurs une importance particulière. Depuis décembre, l'usine est à l'arrêt à cause de problèmes de sécurité. Elle va bientôt reprendre sa production, mais au ralenti avec seulement 30% de ses capacités et la situation ne devrait pas s'améliorer avant la fin de l'année. Toute l'industrie alerte sur les conséquences de cette pénurie, si bien que le problème est pris très au sérieux par plusieurs ministres et le Premier ministre. Il faut dire que 85% de la bière consommée en Nouvelle-Zélande est produite localement. Le secteur du vin pétillant est également très important. Le pays, comme le reste du monde, est déjà touché par l'inflation. La priorité sur les stocks est donnée au secteur médical et de l'eau. Alors, avec le rationnement du CO2 et les importations de gaz envisagées, la montée des prix est inévitable, au détriment de tous et en premier lieu du consommateur.
Merci Adrien Toffolet.